Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Calibre, l'émission de Libre Antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors ce soir, on est déjà le 20 octobre, l'automne, tout ça. Et donc ce soir, à l'antenne, c'est Émilie et Marina. Et à la technique,
Noémie et Laura.
Pour vous accueillir si vous avez envie de nous appeler, puisque c'est donc bien une émission de Libre Antenne sur les questions de, d'amour, de sexualité, de rapport au corps, de un peu tous ces questionnements-là qui peuvent nous traverser et puis nous prendre de la place dans notre tête. Alors le but de Calibre, c'est de vous permettre de vous exprimer comme vous en avez envie, que ce soit pour poser des questions, des interrogations ou pour donner un point de vue. Ou pour juste discuter avec nous un peu sur ces sujets-là. Donc vous pouvez nous appeler, vous serez accueillis au téléphone par Laura. Et donc pour cela, il faut composer le
04 76 09 09 09.
Voilà, voilà. Donc bon bah oui, hein, l'esprit de Calibre, on n'est pas nous des expertes, on n'est pas des psycho-machin-log-trucs. On est des gens qui réfléchissent et qui aiment bien parler avec les gens de toutes ces questions-là. Donc voilà, vous n'hésitez pas à nous appeler. On va s'écouter un premier morceau de musique et puis on se retrouve après pour commencer à discuter de tout un tas de sujets qu'on vous a concoctés.
Et on écoute Miss Platinum, Give Me The Food.
You know, people always say women should be thin. They should be on diet, but I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. I say, give me no fruit if you love me. Some girls may think this chick's a little big. Slim girls don't understand, but I don't care. Some guys may say it's her curves that I deserve. They like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. In my jeans, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. I say, give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Should only eat yogurt and strawberries. They say a lot of things, but you know,
I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I
give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me.
l'écoute de Radio Kaléidoscope 97FM avec l'émission Calibre, l'émission sur les questions de sexualité, de corps, d'amour, tout ça, que vous pouvez également écouter par internet en vous connectant sur le site k-libre.poivron.org. Voilà. Comme ça, vous pouvez nous écouter partout, même quand vous êtes en voyage ou si vous n'habitez pas à Grenoble. Et alors, pour commencer cette émission, on voulait reparler d'un événement dont on avait parlé, qu'on avait annoncé il y a quelques semaines de ça et qui a eu lieu à Grenoble, donc, hein, la ville d'où nous émettons. Et dans cet événement, Émilie, tu y étais un peu comme une envoyée spéciale, quoi. Alors, tu peux nous raconter un peu cette soirée bike porn.
Alors, je n'étais pas la seule envoyée spéciale de l'équipe Calibre. Et puis, on avait fait une petite appel à contribution pour les personnes qui y étaient, si elles avaient envie d'appeler pour nous raconter. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait et vous rêvez de nous raconter cette soirée, vous aussi, c'est le moment, peut-être. Ça peut être le moment de me rejoindre dans ce récit.
Ou si les gens ne sont pas d'accord avec comment tu le racontes.
Peut-être, oui, c'est possible, parce que je vais complètement dire comment moi je l'ai vécu.
Oui, de toute façon, ce n'est pas la question d'être objective, c'est bien de nous raconter comment toi tu as vécu cette soirée. Alors, qu'est-ce que c'était cette soirée?
Il y avait un premier rendez-vous qui était donné sur une place à Grenoble. On est parti en vélo jusqu'au lieu de la soirée. Donc, c'est une soirée qui se passait dans les locaux du Petit Vélo dans la Tête, qui est une association grenobloise.
Où on peut réparer son vélo, où il y a plein d'outils et plein de gens pour nous aider à réparer nos vélos.
Voilà, et donc ce collectif accueillait le Bike Smut Film Festival, donc c'était un festival de films DIY autour de la pornographie, de l'érotisme avec l'imaginaire du vélo, voilà. Et du coup, moi j'étais assez contente de...
Mais du coup, il y avait des films ?
Il y avait des films, donc plein de courts-métrages ou d'extraits de longs-métrages.
Porno ?
Porno, érotique, dans différents imaginaires autour de la sexualité en tout cas.
Mais il y a des vélos dans tous les... C'est quoi le rapport avec le vélo ?
Alors,
c'est
ça qui est un peu... Quel est le rapport avec le vélo ?
On n'a pas l'habitude de faire du rapport entre la pornographie et le vélo.
C'est vrai. Eh ben, c'est le vélo comme accessoire, le vélo comme imaginaire de...
Mais dans tous les films, il y avait un vélo.
Plus ou moins, disons. Ou des fois, il y avait des vélos, des fois, il y avait juste la présence de chambres à air, des fois, on avait des films d'animation avec...
Mais attends, tu ne nous dis pas vraiment des détails, on est obligé d'imaginer.
Mais si, je raconte, bien sûr que je raconte.
Ces chambres à air, à quoi elles servaient?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des chambres à air? On peut faire... Oui, il y avait plein d'idées avec la chambre à air. On peut faire des harnais pour les godes ceintures, on peut faire des fouets, on peut faire des sangles, on peut faire plein de choses comme ça. globalement, voilà, dans tous les imaginaires, je ne peux pas raconter forcément tous les films parce que ma mémoire va flancher au bout d'un moment. C'était plein d'extraits et plein de matières. Moi, j'étais contente de voir autant d'imagination, d'inventivité et puis avec un ton léger et assez humoristique, en fait.
C'était drôle, ouais. Dans les films, il y avait de l'humour et tout.
Je trouve que pour de la pornographie, moi, ça m'a fait plaisir de voir des films dans lesquels les gens sentent qu'ils se marrent, quoi, à avoir fait ces films, à pratiquer le sexe dans ces contextes-là et avec ces imaginaires-là. Du coup, ça fait plaisir.
C'était des films assez artisanaux, quoi, faits par des amateurs.
Alors, sur le principe, c'est des compilations de films DIY que les gens leur envoient.
Donc DIY, c'est ça, c'est que c'est non commercial, c'est fait avec les moyens du bord, ça veut dire des films qui n'ont pas été faits avec des moyens financiers de ouf, quoi.
Voilà, il y a des qualités très différentes, des thématiques très différentes, des esthétiques très différentes, des pratiques très différentes, des corps très différents. Et c'est là aussi où ça fait du bien de voir des corps qui ne sont pas forcément tous lisses, minces, publicitaires. Peut-être quand même blanc, je sais pas. Mais du coup, avec une variété des pratiques, des variétés de, d'orientation sexuelle, enfin voilà, c'était, il y avait des corps en effet, des situations et des scénarios qui mettaient en jeu des sexualités hétéro, des sexualités, on voyait des gouines, des PD, on voyait des corps trans, on voyait, enfin du coup c'était un mix un petit peu de, comme ça, de, vu qu'il y a plein d'origines différentes de ces films, ça brassait pas mal de choses.
Et ça, t'as trouvé ça chouette?
J'ai trouvé ça plutôt chouette. Voilà.
Est-ce qu'il y avait du monde à cette soirée?
Il y avait pas mal de monde. Je n'aurais pas jaugé comme ça, à la louche, une centaine de personnes. On sait rien. Peut-être je compte mal, mais voilà.
Et alors, regarder des films porno en compagnie d'une centaine de personnes, ça doit être un peu étrange. On n'est pas très habitué. En général.
C'est vrai qu'en général, on n'est pas très habitué. Enfin, dans l'imaginaire de, je sais pas, du spectateur de pornographie, on pourrait croire que c'est plus simple de le regarder chez soi, dans un mode masturbatoire ou je sais pas. Enfin,
devant l'ordinateur.
Par exemple.
La main dans la culotte.
Par exemple, voilà. Là, c'était pas trop ça, parce que c'est vrai que de regarder de la pornographie à côté d'autres personnes, ben.
Tu mets pas ta main dans ta culotte.
Ben, moi non, mais en tout cas, j'ai pas vu de personne le faire, mais bon, enfin, je crois pas.
C'est pas le but, peut-être, du coup, j'ai l'impression que c'est pas le même objectif de regarder du porno seul chez soi, dans un but, justement, comme tu disais, d'excitation sexuelle, ou de regarder du porno, là, comme ça, en groupe, dans une soirée, où il y a peut-être plutôt l'idée, je sais pas exactement, de partager.
Partager un moment, comme ça, de regarder des films ensemble, d'en discuter, avec toute l'ambiance aussi qu'il y avait. Bon, c'était du coup un show, hein. Il y avait l'équipe qui était là, présentait les différents moments de film, avec un petit peu des petits moments de performance, de présentation. Du coup, c'était vivant comme salle. Moi, je me suis retrouvée quand même un petit peu à me dire quand même que cette salle vivante, à la fois, ça fait du bien de voir des films où, au cinéma d'habitude, on n'a pas forcément des gens qui réagissent à chaud à ce qu'ils voient. Et là, la salle réagissait. Après, je me suis questionnée quand même sur les réactions de spectateurs, et ce que ça me faisait, moi en tout cas, d'entendre les réactions des personnes qui pouvaient exprimer facilement soit leur plaisir à voir certaines scènes, ce que ça les enjouait, quoi, ou leur dégoût, à me dire, ah ben moi des fois ça me gâchait par exemple, d'entendre le dégoût d'une personne à côté, à me dire, ah oui, bah quoi, tu trouves ça dégueu ce qui se passe,
bon, donc si moi j'aime bien, est-ce voilà, que moi,
si
je
moi
suis
j'aime
dégueu,
bien, est-ce que bon, du coup ça m'a questionné sur ça en fait, de regarder du porno avec des inconnus, de me dire, ah ben zut, en fait, à travers le film, est-ce qu'on regarde ensemble, si on fait des commentaires, je peux me sentir jugée par rapport à certaines pratiques en fait. Du coup, bon, j'ai pensé à ça en tout cas pendant la soirée. Voilà. Et peut-être pour revenir un petit peu sur le contenu des films, c'est vrai qu'il y avait, j'évoquais tout à l'heure vite fait, il y avait des pratiques très différentes de cinéma d'animation où on voyait des vélos dessinés qui se promenaient d'un corps à l'autre. Donc, sur comme ça, des univers un peu érotiques et de jeux avec cet imaginaire-là. Il y avait des films qui faisaient un peu des éloges à la masturbation, où on voyait une meuf se réveiller à côté d'un type qui dort, et puis du coup on voit qu'elle est un peu excitée, qu'elle regarde et tout ça. Bon, il n'y a pas moyen, elle se lève, elle s'habille, elle se fait belle, elle part avec son vélo, et puis en pleine campagne, elle se masturbe en pleine forêt avec son vélo pas loin, ou des choses comme ça.
Oh, c'est beau!
Où il y a des machines incroyables fabriquées avec des vélos, je sais pas, des chambres à air et des godes mis sur les vélos. Bon, voilà. Et je crois que les programmations, du coup, elles changent au fur et à mesure que les gens leur envoient des compilations, en fait, ou
des films.
Parce
qu'en fait, ils font une tournée.
Ils font une tournée. Alors là, j'ai re-regardé tout à l'heure pour voir si je pouvais annoncer des nouvelles dates. Elle est terminée pour la tournée en Europe.
D'accord.
Et il n'y a pas de prochaine date prévue pour l'instant. Mais en tout cas, je peux vous donner leur site si vous avez envie d'aller voir ce qu'ils font. Il y a un petit peu des petites bandes annonces comme ça, et puis les dates des tournées sont annoncées. C'est le bikesmut.com. Voilà, bike comme vélo, smut comme je sais pas, parce que c'est .com.
Moi non plus, je sais pas. D'accord, on n'est pas très doués en anglais. C'est des Anglais alors, ou c'est des Américains?
C'est des États-Unis, oui.
Des Nord-Américains, d'accord.
Voilà, sur cette soirée, bon, moi j'ai dit deux, trois choses. Si vous avez envie de nous raconter encore, je ne sais pas, des souvenirs de films qui vous ont marqué de cette tournée. Ou...
Et puis, est-ce que vous avez aimé ou pas? Parce que aussi, ce que là, tu n'as pas dit, mais que tu m'avais raconté, c'est qu'il y avait une partie plus érotique et une partie plus porno.
Ça, c'est ce que j'ai, moi, perçu, en tout cas, qu'il y avait une progression dans les films montrés. Qu'en effet, l'arrivée dans l'image pornographique, je l'ai trouvée assez douce, en fait. C'était en deux parties. Et la première partie, en effet... on était je trouvais qu'il y avait des imaginaires assez soft, en tout cas, on n'avait pas de... Enfin bon, du coup, l'accompagnement dans les films, je l'ai trouvé, moi, assez chouette, en tout cas. Et voilà, et c'est vrai que sur la fin de la soirée, il y avait plutôt les films où les contenus étaient peut-être un peu plus hard, enfin bon, voilà.
Parce que moi, les questions que ça me pose et que ça m'intéresserait aussi d'avoir vos avis à vous, auditeurs et auditrices, c'est un peu justement tout ce rapport au porno. Est-ce que le porno peut refléter certains de nos imaginaires? Comment? Est-ce qu'au contraire, on trouve que jamais, que c'est de toute façon quelque chose d'impudique et de... Enfin bon, voilà, en fait, ça peut créer beaucoup de débats, le porno. Alors, si vous étiez à cette soirée, est-ce que vous étiez déjà convaincu que le porno, c'est cool, ou est-ce que vous y alliez aussi un peu pour voir toutes ces questions-là, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas à nous appeler ce soir ou un autre soir. On peut rappeler le numéro de téléphone de Calibre, enfin de la radio Kaléidoscope. Donc, tous les jeudis de 20h à 21h, c'est le 04
76
09.
09.
09. On s'écoute un petit morceau de musique. Alors, on va écouter un groupe qui s'appelle No Nebraska avec une chanson qui s'appelle Das Auto von James Brown. We'll be right back.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Kaleidoscope.
Avec l'émission Calibre de Libre Antenne. Il faut que tu parles bien dans le micro, Émilie.
Oui, voilà, je suis en face.
Alors, oui, par rapport au sujet d'avant, tu parlais d'autres émissions de radio, qu'on parlait un peu de porno et tout, que ça pouvait être des liens intéressants.
Ouais, alors du coup, je pensais à deux émissions qui ont été faites l'année dernière autour de la pornographie. Il y en a une qui a été faite par l'émission Dégenré, qui est aussi une émission qui se produit sur Radio Kaleidoscope, et sur une émission Transpédéguine à Lyon qui s'appelle On n'est pas des cadeaux. Voilà, donc toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Rageuse. Voilà.
Et on mettra le lien sur notre blog. Pardon, un petit bug. Tout va bien. Nous sommes zen ce soir, en ce premier jour d'automne où il fait froid. Et donc, on mettra les liens de ces sites, de ces liens vers ces émissions de radio qui sont aussi intéressantes et peuvent être sur notre site à nous, qui donc est k-libre.poivron.org. Et on voulait un peu parler ce soir aussi d'un sujet dont finalement je crois qu'on n'a jamais parlé à Calibre, ce qui est peut-être même révélateur, parce qu'en presque deux ans et demi, alors c'est de la question de l'accès à la sexualité pour les personnes en situation de handicap, comme on dit maintenant. Parce qu'on peut être une personne handicapée, mais surtout on est en situation de handicap par rapport à des situations données. On n'est pas forcément tout le temps handicapé de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. C'est un peu compliqué comme concept. Bref, en tout cas, aujourd'hui, en France, en tout cas, quand on est paraplégique, tétraplégique, quand on a une maladie... neuro, machin, truc... je suis désolée, je ne suis pas médecin. En tout cas, quand on est handicapé, ce n'est pas toujours simple. Soit d'avoir accès à une vie amoureuse comme les valides, voire même d'avoir accès à une sexualité. Enfin, bon. Et du coup, on avait un peu envie ce soir de commencer à défricher ce sujet, qui est un grand sujet, qui est plein de complexité, plein de nuances, plein de diversité, parce que évidemment toutes les personnes handicapées n'ont pas la même vie, la même opinion, le même vécu, tout simplement. Donc comme d'hab à Calibre, on aime bien essayer d'aller trouver des témoignages et des paroles de personnes. Si vous nous écoutez et que vous trouvez qu'on raconte des grosses conneries, s'il vous plaît, appelez-nous pour nous le dire. Ou si ça vous donne envie de réagir, ou si ça vous donne envie de témoigner, voilà, nous on va se donner la voix à des textes, des témoignages qu'on a trouvés, et puis on va un peu essayer d'expliquer des trucs, mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand c'est les personnes qui sont directement concernées, que ce soit parce qu'elles sont elles-mêmes en situation de handicap, ou que ce soit parce que peut-être vous avez aussi, vous êtes en relation affective, sexuelle, amoureuse, en couple ou quoi, avec des personnes handicapées. Alors, on va lire un premier texte.
On va lire un premier texte. Avant de commencer la lecture, j'avais envie de préciser, parce que c'est dans l'écriture de ce texte, il est dégenré, ça veut dire qu'il y a des tournures de mots qui comportent et le féminin et le masculin. Par exemple, plutôt que de dire il ou elle, on a ile ou des choses comme ça. Du coup, voilà, je...
Ile, ça veut dire qu'on s'en fout si c'est une fille ou un garçon, ça n'a pas d'intérêt dans l'histoire.
C'est ça, et tous les termes qui sont utilisés, qui pourraient être l'assistante, quand je dirais assistante, il y a pareil, T, point E, enfin, du coup, peu importe le féminin ou le masculin, voilà. C'est le petit matin. Elle a dormi une partie de la nuit tournée contre moi. J'étais toute la nuit sur le dos. Elle se collait à moi. À des moments, elle posait son bras sur mon torse pour tenir mon épaule. À d'autres moments, elle m'entourait de sa jambe et enfonçait sa tête dans mon cou. C'est le petit matin, je m'éveille un peu. Je suis toujours sur le dos, elle est tournée de l'autre côté. Je veux me lever contre elle, me caler dans son dos, la serrer doucement, ne pas la réveiller, me rendormir contre elle. Je suis toujours sur le dos. Je regarde son épaule, je regarde le plafond. Son épaule, le plafond. son épaule, le plafond. Je suis toujours sur le dos. Elle dort, elle respire, je l'aime, j'essaye de respirer. Je suis toujours sur le dos, toujours, toujours. Je ne peux pas me tourner. Je ne peux même pas glisser ma main dans son dos. Mon corps est immobile, le jour, la nuit. Des sangles invisibles contiennent mes mouvements, toujours, toujours. Ça n'est pas un fantasme éveillé. Ça n'est pas un jeu. Ça s'appelle un corps handicapé. Je ressens, j'ai envie, mais... Je vois le plafond, je suis le plafond. J'essaye d'assassiner mon envie. Je cherche à évanouir mon esprit qui me visualise en boucle le geste de se tourner contre elle. Je déteste mon corps, je déteste qu'il se soit réveillé. Pas qu'il se soit réveillé à côté d'elle, mais qu'il se soit réveillé en moi. Je serre la mâchoire. Ça ne se fait pas de crier au petit matin. Pourtant, j'ai une fois de plus ce silence qui hurle et la rage qui ne peut se frapper qu'à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que le plafond va me pleurer dessus. J'ai peur que depuis son sommeil, elle perçoive ma rage. Je ferme les yeux, j'écoute sa respiration. La respiration est un des rares mouvements sur lequel je peux me caler. Je suis son rythme, ça m'apaise. Je veux sentir mes poumons contre les siens. Je ne comprends pas pourquoi tout murmure en moi « tourne-toi contre elle », puisque c'est un geste qui n'appartient pas à mon corps. Ce geste, il n'a jamais pu le faire, et c'est surtout qu'il ne le fera jamais. J'aimerais parvenir à désintégrer ses gestes mentaux. J'aimerais me rendormir contre elle, que sa présence me montre une fois de plus que c'est possible. Ce truc qu'elle sait faire, dénicher les failles dans mes murs, nous y glisser. Je ne vais pas la réveiller. Je ne vais pas lui demander qu'elle m'aide à me tourner, ni qu'elle vienne contre moi. Je vais me réveiller du plafond, qui me nargue, de la rage qui aveugle les possibles. Je détiens une solution. Qu'un autre corps que le mien, ou le sien, fasse les gestes. Ça veut dire décorporaliser mes gestes. Ça veut dire expliciter et formuler clairement mes envies, dès le réveil. Ça veut dire temporiser mes désirs. Ça veut dire médiatiser ma gestuelle. Ça veut dire opérer une cassure dans le rythme du petit matin pour tenter de le poursuivre. Ça veut dire appeler l'assistante de nuit qui dort dans la pièce à côté de la mienne, que j'appelle lorsque j'ai besoin de soulager une douleur des membres ankylosés. La peur est de la réveiller lorsque je vais devoir appeler à la voix assez forte ou encore que l'assistante soit déjà partie. J'hésite plusieurs minutes. Je regarde le plafond. Plus j'attends, plus il y a de chances que l'infirmière, qui entre sans précaution pour me lever tous les matins vers 8h30, arrive. Je me décide et j'appelle. Par chance, l'assistante entend du premier coup. W entre discrètement dans ma chambre. Je n'ai pas envie de regarder son visage. Je souhaite qu'il reste cette ombre debout à côté de moi, comme venant du sommeil. Même, je préférerais que ce ne soit qu'un robot sur commande. Je chuchote à l'ombre que je veux me tourner de ce côté. L'assistante découvre la couette, positionne ses mains sur mes hanches et mon épaule et me pivote. J'aime ses gestes, silencieux, discrets. Je lui demande de rapprocher mon bassin contre elle. Ile hésite. Ile a appris à n'exécuter que des gestes médico-techniques. Je ne veux pas qu'il le tarde, je ne veux pas la réveiller. Plus près d'elle, je chuchote fermement. Il le calme mon corps à son corps, que je sens enfin respirer. Je souris dans sa nuque. L'assistante me recouvre de la couette. Je lui demande de poser mon bras autour d'elle. Il le emmène mon bras vers son ventre. Un peu maladroitement, elle attrape mon bras, glisse sur ma main. Elle soupire, comme un sourire. Je la serre doucement, elle appuie son corps au mien. Je ferme les yeux, l'assistante sort. Je suis immobile contre elle. De cette immobilité connectée, qu'elle seule m'a appris peu à peu à vivre, à ressentir, à aimer. Ce n'était pas vraiment une histoire, c'était juste un geste, se rendormir contre quelqu'une. Ou alors, chacun de mes gestes sont des histoires.
Ok, où est-ce qu'on a trouvé ce petit texte? Enfin, ce petit texte, ce long texte, parce qu'en vrai, en plus, on l'a coupé, on n'a pas lu en entier.
La première partie, ouais. On pourra parler un petit peu du contenu de la suite, mais on s'est dit peut-être qu'on pouvait lire cette première partie déjà. C'est un texte qu'on a trouvé dans une revue qui s'appelle Timult, euh, récit, analyse et critique. Et c'est dans la rubrique politico-érotique de cette revue. Mmh. Voilà.
Bah, ça pose plein de choses, ce texte. Je le trouve vachement intéressant. Toi, qu'est-ce que t'as bien aimé, toi, dedans ?
Alors, dans ce texte-là, c'est vrai que c'est dans les imaginaires qu'on... Enfin, en tout cas, dans moi, ce que ce texte m'a évoqué, c'est que vraiment, dans les imaginaires érotiques qu'on peut avoir, pornographiques, et du coup, ben,
c'est un peu la suite entré, de la...
Voilà, par la pornographie dans l'émission, et puis là, de revenir dessus avec un autre regard. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans nos imaginaires collectifs, autour de ce que c'est que l'érotisme, la sexualité, on a comme ça un rapport au geste qui n'est pas ni explicité, ni... Et ce texte pose toute l'histoire de ce geste-là et comment, en fait, c'est pas un simple geste qui est si simple pour tout le monde.
On n'a pas tous et tout le même accès. Et on n'est pas égaux et égales face à la sexualité, ça veut dire. Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui, pour juste pouvoir prendre dans ses bras son amante au petit matin, ça nécessite tout un tas de choses, quoi.
Et dans la suite du texte, c'est vrai qu'on sent aussi du coup l'oppression que ça peut être, ces images, ces imaginaires érotiques-là pour des personnes qui vivent des situations de handicap, de se coltiner tous ces imaginaires-là, et puis
d'imaginaires valides, en fait.
C'est ça.
Des imaginaires de valides, de personnes qui peuvent bouger, qui peuvent... Et en fait, on dit souvent qu'on est tous et toutes imprégnés des imaginaires des films porno, des films érotiques, qui sont des imaginaires quand même de personnes ultra performantes et tout. On parle souvent comme critique du porno classique, de la critique de la performance. Et là, ça va encore un peu plus loin. Donc ça va jusqu'à juste le fait de pouvoir effectuer des gestes...
Et pas que dans la pornographie, dans aussi il y a un petit extrait, bon du coup qui est un peu plus loin dans le texte, qui raconte aussi dans les jeux de la séduction les codes aussi, c'est de se toucher, danser ensemble, jouer à se battre, enfin c'est certains codes qui sont utilisés par les gestes, comme si la parole pouvait pas suffire en fait, ou en tout cas voilà, se prendre dans les bras, enfin c'est voilà, c'est quand même certains codes implicites de la relation, quoi.
Moi, ce que je trouve intéressant quand je lis un texte comme celui-là, c'est aussi la question que ça me pose, et moi je pense que c'est un peu la question que j'ai envie de poser ce soir dans Calibre, c'est dans nos imaginaires érotiques, aussi à nous en tant que personnes valides, est-ce qu'on s'imagine pouvoir désirer un corps handicapé ? Un corps peut-être pas tout à fait vertical comme on a l'habitude, peut-être un peu moins droit, peut-être un peu plus tordu, peut-être différent en tout cas. Mais c'est les mêmes questions qu'on posait quand on fait des émissions sur la grosseur et on dit voilà, on est habitué à la norme, la norme de beauté, c'est d'être mince, d'être musclé, d'être sportif. Est-ce que je peux désirer un corps avec des bourrelets ? Est-ce que je peux désirer un corps puis j'ai pas envie de donner des exemples parce que c'est il y a des mille corps handicapés, mais je trouve ça intéressant de s'interroger soi-même aussi sur vers où vont nos désirs et pourquoi et de quoi ils sont construits et est-ce qu'on peut les construire autrement et est-ce que quand c'est assez rare, c'est bien la preuve de la place des personnes pour les personnes handicapées dans cette société, elle est pas simple, mais si dans mes espaces sociaux j'ai l'occasion, la chance, j'ai envie de dire, de croiser des personnes des handis, comment je les vois ? Est-ce que je les vois comme des personnes ? Est-ce que je les vois comme des handis, comme des pauvres handicapés ? Ou est-ce que je les vois comme des personnes que je peux rencontrer et peut-être même éventuellement désirer ? Et ça, je trouve que c'est des questions qu'on doit tous et toutes se poser. C'est important, quand même. Et parce que ça amène bien la question de qui on compose notre société et qui est-ce qu'on intègre dans notre société et qui est-ce qu'on n'intègre pas.
Et dans la construction de ces imaginaires, là, en effet, quand tu disais qu'on est construit par certains imaginaires est-ce que c'est médiatique, est-ce que c'est, enfin voilà, sur des choses comme ça qui sont plus globalisantes que d'autres. Et en tout cas, dans le récit que je viens de lire, il y a aussi cette question de, bah ouais, ces imaginaires. Même pour la personne qui raconte, là, ils sont présents, ce désir-là de faire ce geste-là, alors que c'est un geste, je sais que je ne peux pas le faire. Eh bien, oui, c'est bien, bah oui, ok, tu ne peux pas faire ce geste-là, mais qui t'a dit que tu... Enfin, du coup, d'où vient ce geste-là et l'envie de faire ce geste-là, et je pense qu'il est aussi imprégné dans ces imaginaires-là. Ouais. Alors que des façons d'être et de faire, il en existe d'autres que... Enfin, voilà. Une dernière chose, un autre truc aussi qu'on avait, moi que ça m'évoque et puis qu'on avait envie un peu de discuter, c'est vrai que souvent dans Calibre, on parle aussi de promouvoir cet aspect de la sexualité autonome et de l'autonomie dans la sexualité, à promouvoir un peu la masturbation par exemple, ou des pratiques comme ça, ou de ne pas compter forcément tout le temps sur l'autre. Et c'est vrai que...
Parce que c'est important.
Ben, c'est vrai, c'est important. Et je trouve que ce texte vient questionner ça aussi, sur comment on peut facilement promouvoir cette autonomie en tant que corps valide. Oui, j'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais amener ma main jusqu'à mon sexe, alors que là, dans ce récit-là du matin, de comment poser sa main sur l'autre... on voit bien que c'est toute une autre démarche qui ne peut pas être uniquement sur une valeur de l'autonomie.
Ouais, c'est vrai qu'à la fin du texte, en plus, la personne, elle en parle aussi. J'entends beaucoup ça, et moi, sauf que moi, pour me masturber, il faut quand même que je demande à une assistante de vie de positionner ma main. Bon, c'est autre chose, quoi. C'est un autre rapport à l'autonomie, effectivement. On se fait une petite pause musicale et puis on continuera un peu de discuter autour de ces questions-là. On vous invite vraiment à nous appeler si ça vous donne envie de réagir. 04 76 09 09 09 pour appeler Calibre et parler avec nous de ça ou d'autres choses d'ailleurs. Hein. Et on écoute une chanson de Wax Taylor, Dry Your Eyes.
Describe myself as the landscape I bury. My mother's face as she carried me, how her water raged and emptied.
Whenever Hampton moves around,
toujours à l'écoute de Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM, l'émission de Libre Antenne où on vous invite très chaleureusement à nous appeler si vous avez envie de nous poser des questions ou de discuter avec nous sur n'importe quel sujet qui vous touche autour de ces questionnements d'amour, de sexualité, tout ça. Donc pour ça, il faut nous appeler au 04 76 09 09 09. Si vous n'écoutez pas l'émission en direct, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous d'après les sondages, n'hésitez pas du coup à programmer dans votre agenda. Ah ouais, j'ai écouté ça, ça me donne envie de réagir. Jeudi prochain, je les appelle quoi. À 8h20, tac tac quoi. Ah, peut-être que vous n'avez pas d'agenda. Bon, j'ai qu'à pas supposer des choses comme ça de vous.
Ou écrivez-nous.
Oui, c'est aussi possible de nous écrire d'ailleurs à calibre-libre@poivron.org. Si vous êtes trop timide ou si vous êtes occupé tous les jeudis de 20h à 21h, voilà. Mais quand même, on préfère que vous nous appeliez. On continue sur notre sujet là, lié un peu à la question du handicap, de la sexualité et tout. Et je ne sais pas si vous avez un peu suivi ça dans les médias, il y a un peu un truc qui revient souvent, là, c'est un espèce de débat sur la question des assistants, assistantes sexuelles, assistants érotiques, assistants à la sexualité. Enfin, il y a comme ça plusieurs termes pour décrire ce corps de métier, n'est-ce pas ? Cette activité qui, pour l'instant, n'existe pas en France, mais qui existe en Suisse, en Allemagne, en Hollande, aux Pays-Bas. Et donc qui est une activité particulière, spécifique d'accompagnement à la sexualité pour des personnes en situation de handicap, que ce soit pour aider des couples de personnes handicapées à aller vers de la sexualité, que ce soit pour accompagner une personne, par exemple, dans l'apprentissage de la masturbation, notamment pour des personnes porteuses de handicap mental. Je pense à des personnes autistes qui peuvent avoir des difficultés à se masturber de façon efficace. Ils vont se masturber beaucoup, beaucoup, de façon compulsive, mais jamais arriver à la jouissance. Et du coup, il va y avoir tout un travail des accompagnatrices érotiques avec ces personnes-là. Bon, bref, il y a plein de situations super diversifiées et aussi la possibilité d'accompagner des personnes qui n'ont peut-être pas souvent, voire jamais, eu l'occasion d'avoir des échanges érotiques, sensuels avec d'autres personnes, de découvrir ça, de vivre ça, de vivre ce... Donc on avait un peu envie d'amener aussi ces questionnements-là, qui est différent de celui dont on parlait un peu avant la chanson, mais aussi parce qu'il faut bien toujours avoir, pour moi, cette double... analyse quand on veut parler de la sexualité pour les personnes porteuses, pour les handis, qu'il y a d'un côté il y a cette question importante pour nous des assistantes érotiques, mais faut pas non plus oublier qu'il y a tout un tas d'handis qui ont pas besoin d'assistantes érotiques dans la vie, qui se démerdent très bien pour vivre leurs histoires d'amour, tomber amoureux, baiser avec leur partenaire et qui et voilà, et que c'est pas, enfin, il faut pas penser que toutes les personnes handicapées sont dans une misère sexuelle. C'est important de pas faire d'amalgame comme ça. Hein. Donc je tenais à le dire fort, et aussi que là nous, ce soir, on va plutôt parler des assistantes érotiques de façon positive. Là nous, Émilie et moi, on trouve ça intéressant, mais on tenait aussi à, et les témoignages qu'on va évoquer sont des témoignages de personnes favorables. À ça, sachant aussi, il faut aussi se dire, donc c'est important que parmi la communauté handie, la communauté, je ne sais pas si c'est bon. En France, il y a aussi des associations d'handie et des individus qui sont farouchement opposés à cette question de l'accompagnement érotique. Donc on ne va pas développer leur point de vue ce soir, mais je voulais quand même le dire.
Tu parlais d'un débat en cours parce qu'il y a une réglementation qui se.
Il y a des assos, il y a des groupes et tout qui militent fortement pour que ce soit possible en France de développer des services d'accompagnement érotique. Malheureusement, en France, ça marche pas. Si on passe par ces trucs de loi et tout, c'est complètement illégal. Bon, c'est aussi tout le rapport à la prostitution, au rapport sexuel.
je mets des guillemets asexuels parce qu'effectivement, ça peut, enfin, à partir de quand commence le sexe, hein? Est-ce qu'un truc érotique, c'est sexuel ou pas? Mais tarifé, bon, ben voilà, en France, il y a un rapport particulier au travail du sexe. C'est pas pour rien qu'en Suisse, en Allemagne et en Hollande que ça marche. Hein. C'est des pays un peu plus libéraux sur ces questions-là. Donc, c'est vrai que. Donc, en France, voilà, il y a beaucoup de réticences par rapport à ça. Mais c'est intéressant aussi de voir. Alors, du coup, il va y avoir toute une défense du métier d'assistante érotique en le différenciant bien du métier de travailleuse du sexe, ce qui, moi, me questionne.
Ouais.
Parce que pour moi, ce n'est pas négatif en soi d'être travailleuse du sexe. Alors, mais c'est intéressant parce que d'un côté, des personnes porteuses de handicap vont dire attention, nous, on ne veut pas aller aux putes, quoi, on veut des assistants érotiques. De l'autre côté, les assistantes érotiques vont dire « Attention, nous, on n'est pas des putes. Enfin, » Le stigmate de pute, il continue toujours un peu d'être présent. C'est assez questionnant, mais je conçois aussi que ce ne soit pas simple. Quoi, hein. Donc peut-être on peut lire les petits témoignages. On a deux témoignages, un témoignage d'une femme et d'un homme sur cette question de l'assistante érotique. Alors écoutons Yvette.
Je me sens plus vivante. Oui, c'est ça. Le toucher me permet d'être vivante. Quand on m'embrasse, je suis dans les bras de quelqu'un. Je ne suis plus handicapée. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin de ressentir ces sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter mon corps. Adolescente, je rêvais qu'un jour, je ne serais plus en fauteuil, que je danserais, que je courrais. Même ma mère a espéré toute sa vie que je guérirais. Jeune fille, ce qui était important pour moi, c'était de vivre une vie normale, de prouver que j'étais comme les autres. J'ai eu peu d'amants handicapés, car je ne voulais pas avoir de reflet de moi-même, mon handicap. Ce que je donnais, c'était mon corps, pas mon handicap. Plus tard, j'ai eu un enfant, et je suis restée avec son père pendant 23 ans. Maintenant, je suis à nouveau célibataire. J'ai voulu rencontrer un assistant sexuel parce que je suis très curieuse et que c'est une question essentielle dans mon combat auprès des personnes handicapées. C'est grâce à une sexologue relaxologue que ça a pu se faire. Ça a été très agréable. Encore une fois, j'ai oublié mon handicap. Ce moment a été différent de ce que j'aurais pu vivre avec une personne choisie. Mais ça a été un moment féerique. Je me suis sentie plutôt jolie, plus désirable, plus heureuse aussi. Après, j'ai eu envie de me lever, de courir. Pour l'assistant sexuel, le corps n'est pas vu, envisagé de la même manière. Il donne du bonheur, du plaisir, sans le côté amoureux, le sentiment. Mais un massage sensuel, ça fait vraiment du bien. C'est un moment de détente, comme un jeu érotique. Et pour une personne lourdement handicapée, c'est très important. Le toucher, les caresses, ça revalorise le corps. Donner des sensations à une personne lourdement handicapée. C'est très beau, très profond, parce qu'on peut se réapproprier son corps, ressentir les vibrations. C'est tellement important. Les bébés, on les caresse, on les cajole. Est-ce normal que certaines personnes puissent rester toute une vie sans jamais revivre cela, retrouver cette sensation, ce contact ?
Donc voilà un témoignage plutôt positif sur cette question d'assistante érotique. Une personne qui dit vraiment comment pour elle ça lui redonne cette valeur qu'elle peut pas forcément trouver facilement dans cette société parce que c'est pas simple, je pense, de trouver des compagnes ou des compagnons.
Le rapport au toucher, le rapport à...
Ça me fait penser, moi je vous conseille vraiment les lectures, de lire ou d'aller voir un peu des interviews d'un grand militant de cette cause-là qui s'appelle Marcel Nuss, N-U-2-S, et qui disait un truc, là cet après-midi on regardait un peu on écoutait un peu ses interviews, et à un moment donné il disait un truc qui toi t'as un peu marqué sur justement ce rapport j'espère que tu t'en rappellerais.
Oui, il y a plein de moments qui m'ont marqué.
L'histoire de... Bon, c'est parce qu'il parle notamment de... En fait, il dit qu'il y en a besoin et il faut arrêter l'hypocrisie, en fait. Il faut arrêter l'hypocrisie de dire... c'est bien... Moi, je pense qu'il y a un double combat. Il y a le combat pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, ces personnes puissent vivre telles qu'elles ont envie de vivre, pas forcément en institution, Après, il y a aussi pas non plus être hypocrite sur les réalités.
Il
cite aussi ces mères qui sont obligées de masturber leur fils. Et ça, c'est des réalités qui aussi sont alarmantes quand même aussi.
C'est ça, c'était des arguments aussi pour dire que ben voilà qui est interdire ou autoriser cette assistance, en fait, l'interdire, ça revient à nier que de toute manière elle existe. Enfin, et que ça soit dans ce que tu viens de dire là, de l'aide de la mère pour son fils, mais oui, les départs en Suisse, dans des conditions financières incroyables, d'aller à l'étranger pour cette assistance-là, retrouver cette assistance dans des pays où c'est autorisé. Et dans le film qu'on a vu cet après-midi, il faisait le rapport au combat autour de l'avortement, ou comment, du coup, sur la... Sur en tout cas, dans le mécanisme, interdire, ouais. Se voiler les... Enfin, c'est se fermer les yeux sur le fait que ça existe quand même, et du coup, dans des conditions pas terribles quand on doit se cacher pour le faire, ou se débrouiller comme on peut pour le faire, quoi.
Ouais. Ça me fait penser un peu à un deuxième témoignage que je trouvais intéressant à vous lire. Donc c'est les deux témoignages, enfin les trois d'ailleurs, hein, témoignages qu'on vous lit ce soir, c'est de la part de personnes qui sont assez militantes aussi dans le milieu handi en France. Donc là c'est Charlie qui dit « La sexualité c'est tellement intime. Quand on est lourdement handicapé, comment peut-on en parler à ses parents quand on a soi-même 30 ans, 40 ans ? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a des personnes handicapées qui ne peuvent ni manger, ni téléphoner, ni se laver, ni parfois parler, et certaines sont sous tutelle. Pourtant, on a tous besoin de tendresse. Il y a plus de 20 ans, j'ai fait quelque chose pour un ami très handicapé. Il voulait avoir un rapport sexuel pour la première fois de sa vie, avec une prostituée, et avait économisé 10 francs par 10 francs pour pouvoir s'offrir ça. Non seulement il s'exprimait difficilement, mais il ne pouvait pas bouger et c'était délicat de le manœuvrer. Avec un autre ami, on l'a emmené à Marseille. Après plusieurs refus, on a trouvé une belle prostituée qui a accepté. On l'a posée sur le lit, on l'a laissée avec elle. C'est la seule fois de sa vie où il a eu une relation avec une femme. Tous les ans, il m'en reparle. Moi, mon enfance n'a pas été tendre, agitée d'abord par la maladie, puis par les innombrables fractures et les problèmes de santé. Plus tard, j'ai eu plusieurs histoires avec des femmes, mais pour moi, comme dans la chanson... Les histoires d'amour finissent mal en général. Aujourd'hui, je vis au jour le jour. L'amour, ce n'est plus ma quête. Et puis, depuis que j'ai 40 ans, mon médecin m'a dit de m'occuper de moi, de ma santé. Je me déplace en fauteuil électrique, j'ai perdu 50% de mes capacités. On peut dire que je suis dans ma période bonus, comme dans les DVD. Et tel le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles, je cours après le temps. Par le biais d'Internet, j'ai rencontré une personne qui avait suivi une formation en Suisse, prête à proposer un accompagnement sexuel à des personnes handicapées. Je l'ai contactée parce que je voulais expérimenter cela. Elle est venue chez moi et nous avons commencé par parler de tout et de rien en buvant un café, simplement pour faire connaissance. Ensuite, elle s'est déshabillée et m'a fait un massage à l'huile d'amande douce sur tout le corps. Cela n'avait rien à voir avec un massage habituel, ça ressemblait plus à un câlin, tendre et affectueux. C'est ça le concept de l'assistance sexuelle. Par ailleurs, j'ai également voulu me rencontrer une prostituée. Pour cela, j'ai dû appeler 10 escortes. 8 m'ont raccroché au nez en me disant « Ah, vous êtes handicapé, on ne fait pas. Hein. La loi nous l'interdit, on a eu des problèmes. » Mais les deux femmes sublimes que j'ai finalement rencontrées ont été très douces et attentionnées. Cependant, le prix était exorbitant, même si elles n'ont pas comptabilisé le temps passé. Une prostituée, ça peut être génial, tout dépend comment on se sent, comment on voit les choses. Moi, j'ai eu une vie affective et sexuelle normale et je n'ai pas envie de retomber dans une histoire d'amour. Mais si on a 40 ou 50 ans et que l'on n'a jamais eu de relation sexuelle, on est plus dans le spirituel du corps. La prostituée vient assouvir une pulsion sexuelle alors que l'assistant sexuel écoute le corps, l'entend, le traite avec douceur et tendresse sans aller directement au sexe. Il s'occupe du corps dans son entier.
Donc là aussi, on a sur la fin de ce texte cette distinction là entre ce que c'est que la prostituée et l'assistante.
Oui. Enfin, mais c'est intéressant.
Mais du coup, c'est par rapport à un vécu. Mais du coup, c'est encore un autre point de vue de ce que tu disais sur le dénigrement d'un côté ou...
Ouais, bah, moi je trouve que c'est une distinction un peu théorique, de... mais elle est intéressante. Comme, après j'imagine qu'il y a des travailleurs du sexe qui entendraient ça et qui diraient « mais moi je fais attention à tout le corps !» Puis je trouve, il dit aussi, elles n'ont pas compté leur temps et tout, mais c'est aussi que c'est hyper cher et la question de l'assistant... Enfin, j'imagine que si le système d'assistante érotique est mis en place... Il y aura probablement que les tarifs, ce n'est pas les mêmes, la question des financements. Enfin bon, il y a peut-être tout un truc qui change un peu la donne, quoi. Mais je trouve intéressant quand même ce témoignage dans comment il parle aussi de différents besoins au cours de sa vie, qu'il a eu des histoires d'amour et qu'il y a des moments où juste c'est trop compliqué de mettre en place une histoire d'amour, trop d'enjeux, et que c'est intéressant aussi d'avoir accès à... Bah, ouais, un service érotique, quoi, qui va nous faire sentir d'une certaine manière exister d'une façon dont on a envie et qu'on n'a pas l'occasion, enfin, pas l'accès. Oui, du coup, bah voilà. Non, mais c'était important pour nous un peu de poser ces balises-là. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire beaucoup d'autres. C'est, ça questionne pour moi globalement la place des personnes porteuses de handicap dans cette société, surtout de handicap lourd. Hein. Voilà, ça questionne comment on reconnaît que ce sont des personnes qui sont potentiellement sexuelles, sexuées, comme potentiellement tout le monde. Et je pense pas mal aussi aux personnes qui vivent en institution, parce que actuellement. Beaucoup, beaucoup de personnes handicapées vivent en institution parce qu'il y a peu de... Les politiques ne vont pas vraiment vers l'autonomisation des personnes vivant en appart et tout. Hein. Et comment ça se passe en institution ? Quelle violence y existe ? Parce qu'il en existe. Moi, j'ai lu beaucoup de... et entendu pas mal de témoignages d'histoires de viol, de violences sexuelles, que ce soit dans les institutions entre... Les résidents, comme on dit, ou enfin les personnes qui donc habitent, ou que ce soit de la part de personnel sur les personnes résidentes, du non-respect des désirs de couple, des désirs de sexualité, enfin il y a tout un tas de violences comme ça, et tant qu'on continue de pas à se dire que simplement comme tout un chacun, ce sont des... Mais j'ai l'impression de dire une généralité, ce sont des personnes qui peuvent avoir des désirs. Et ben on n'avance pas sur cette question-là. Et c'est pour ça que ce débat sur les assistants érotiques, à la fois, il est intéressant et il est important. Et à la fois, il ne faut pas qu'ils voient tout simplement le fait que cette société doit aussi se questionner sur l'accès des personnes en situation de handicap à une vie sexuelle choisie, épanouie. Voilà.
Et tu voulais pas nous parler aussi d'un manifeste ou d'une pétition ou d'un endroit où on peut aller voir là pour
bah ouais, j'ai trouvé du coup bon on mettra un peu les liens toujours sur notre site. J'ai trouvé pas mal de blogs, de forums qui où des handis parlent un peu de tout ça et brassent tout ça. Et j'ai trouvé un manifeste qui est donc j'ai pas le temps de vous le lire là parce qu'on touche un peu à la fin de notre émission, mais c'est le manifeste pour la création d'un service d'accompagnement à la sexualité des personnes en situation de handicap. Donc c'est un manifeste pour revendiquer ce droit des accompagnantes érotiques, qui dit que voilà, toute personne a besoin de toucher, d'être touchée, que ça fait partie de l'équilibre global des personnes. J'aime bien la fin. À situation exceptionnelle, apportons ensemble une réponse exceptionnelle, courageuse et singulière. Franchement, c'est une façon aussi de dire, bon, c'est sûr que c'est pas simple, ça touche à la question de travail du sexe et tout. Bon, c'est des grands débats. Hein. Donc voilà, moi j'avais envie un peu de poser ça dans Calibre, de vous appeler surtout encore une fois à témoigner. Peut-être d'aller aussi regarder un peu, si vous êtes valide, d'aller un peu regarder qu'est-ce que les handis disent. Il y a des productions de films, en fait il existe plein de choses hein, qui questionnent, qui sont hyper intéressants, et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller voir, d'aller écouter, et puis d'aller cogiter un petit peu quoi.
C'est la fin. On va rendre l'antenne.
Alors bravo Émilie pour ta première émission à Calibre.
Merci.
Voilà, maintenant les toutes rouges. Ça va.
Donc ce soir c'était Marina et Émilie.
Et à la technique.
Noémie et Laura.
À la semaine prochaine, bonne soirée.
Au revoir.
Corps,
amour,
sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.